Et notre invité ce matin dans le 8h30, docteur Alain Derniaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Kairos qui, avec l'association Jalmal-Hautes-Alpes, eh bien, s'est associée pour redonner vie à la Fédération départementale des soins palliatifs dans le 05. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, des soins palliatifs, puisque vous avez été le premier chef du service de soins palliatifs dans les Hautes-Alpes. C'était il y a 30 ans en arrière, finalement, qu'on a commencé à parler de soins palliatifs dans le département. On va y revenir. Simplement, avec vous, avant de commencer, j'aimerais définir les soins palliatifs. De quoi parle-t-on exactement?
Les soins palliatifs ont été définis il y a déjà quelques temps, hein, même s'ils se pratiquent depuis l'Antiquité. C'est une attention toute particulière à la personne malade. Hein, ce sont des soins actifs qui respectent bien sûr l'environnement du patient, qui prennent en charge sa famille et qui font une attention particulière vis-à-vis des soignants qui s'occupent de ces personnes gravement malades, potentiellement mortelles. Donc, il ne s'agit pas de soins qui consistent à une attention particulière 8 jours avant le décès. Non, ce sont des soins qui s'adressent à des patients qui relèvent d'une maladie grave, potentiellement mortelle, hein, incurable. Oui. Mais aujourd'hui, on voit bien avec les pathologies cancéreuses particulièrement ou neurologiques que les prises en charge de ces maladies qui se terminent assez souvent mal, malheureusement, peuvent durer des années et des années.
Et oui, justement,
le soin palliatif s'attache au confort de vie de ces patients, à leur qualité de vie avant tout.
Et c'est là où il y a souvent méprise. Quand on pense à soins palliatifs, immédiatement dans l'esprit, on pense à fin de vie. Alors que comme vous venez de le dire, hein, les soins palliatifs, ce sont des soins actifs. On prend en compte et la souffrance physique, mais aussi psychique, sociale et spirituelle. C'est tout un pan, en fait, d'accompagnement.
Absolument. Et j'insiste pour dire que même encore aujourd'hui, là où ça se pratique depuis très longtemps, le parent pauvre de ces prises en charge, c'est souvent la prise en charge spirituelle. Et par spirituel, j'entends bien évidemment non religieux. C'est-à-dire plus au-delà sur l'interrogation du sens de sa vie en particulier.
Oui. Et c'est là où on se rend compte que les soins palliatifs, c'est un domaine qui est complètement pluridisciplinaire. Il y a l'équipe médicale, bien sûr, pour les soins, mais il y a aussi l'équipe d'accompagnants et souvent même des bénévoles.
Il y a absolument toutes ces spécialités dont vous parlez, et y compris les bénévoles qui représentent, comme vous le savez, la société civile, hein, et qui participent pleinement à cette prise en charge. Ils sont souvent intégrés aux équipes, hein, et c'est souvent eux qui nous ont montré le chemin bien avant que les professionnels de santé s'emparent de ce sujet. Donc les bénévoles sont une partie malheureusement trop discrète, mais tellement fondamentale pour nous, même les soignants, vous voyez, au-delà des patients et des familles, les bénévoles nous apportent un peu d'air frais et de réflexion et de présence. Et ils ont été particulièrement traumatisés, là, par la pandémie, parce que les portes de toutes les institutions dans lesquelles ils intervenaient ont été brutalement fermées. Hein, oui. Et là, on se dit, mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors que ce sont des personnes qui respectent le secret médical, qui respectent les règles d'hygiène, etc., qui auraient pu être considérées quand même un peu du côté des soignants.
Ouais, la crise sanitaire a mis à mal, finalement, l'approche en soins palliatifs.
Ah oui. Alors, beaucoup de services ont essayé de s'adapter au mieux aux conditions drastiques exigées par les mesures sanitaires. Hein, mais malheureusement, cette période-là a été marquée par une désertification des présences. Hein, et de l'accompagnement, hein, vous avez vu, il y a eu des moments terribles avec des personnes qui n'ont pas pu revoir leurs patients, leurs parents malades et mourants. Et voilà, ça a été une période sombre. Et j'espère, moi, à titre personnel, mais aussi au titre de la Société française de soins palliatifs, qu'il y aura un véritable questionnement sur ce qui s'est passé dans ces moments-là.
Parce que, alors aujourd'hui, on comprend par vos propos que, alors ça, c'était l'approche de 2020, en effet, où toutes les structures se sont vraiment repliées sur elles-mêmes, fermées. Aujourd'hui, on suppose que les soins palliatifs ont à nouveau redémarré. En tout cas, les portes se sont rouvertes au niveau des structures et des établissements. Mais en tout cas, quelle est la réponse qui doit être apportée? On ne souhaite pas qu'il y ait une pandémie tous les ans. Mais en tout cas, il faut aussi qu'il y ait une réponse quand il y a une crise sanitaire. Laquelle?
Alors là, moi, je suis loin d'être ministre de la Santé et je ne suis pas membre du comité scientifique. Je respecte au plus haut point mes collègues virologues, infectiologues, épidémiologues et je les ai écoutés et je participe moi-même à la vaccination sur le département. Je pense que, si vous voulez, dans ces périodes-là, il faut avoir au préalable anticipé. Maintenant, on peut dire que ça peut arriver, puisque c'est arrivé. Et je pense qu'il faut réfléchir avec tous toutes les compétences humaines possibles pour gérer la prochaine crise au mieux, au plus près de tous les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire que vous avez vu cette désertification un peu de partout. Moi, je pense qu'il y avait moyen de gérer humainement ces moments un peu différemment. Les portes des institutions se sont fermées aux bénévoles, c'est une erreur. Ça, on peut dire aujourd'hui, c'est une erreur, il ne faudra pas le reconduire. On a, dans le comité scientifique, nous n'avions pas de certaines spécialités d'approche soignante. Est-ce qu'il y avait des infirmières? Vous voyez, non, il n'y avait pas d'infirmières. C'est quand même dommage. Par exemple, nous, en soins palliatifs, on prône l'interdisciplinarité, donc la pluridisciplinarité en action, si je puis dire, et ça nous apporte énormément. Vous savez, dans ces processus décisionnels qui sont lourds, difficiles, où il s'agit de décider de tel ou tel soin, de telle ou telle investigation supplémentaire, on a toujours besoin de la présence d'une aide-soignante, d'une infirmière, d'une psychologue, d'une assistante sociale, des bénévoles, pour faire le moins d'erreurs possible.
J'ai une question qui me vient en tête, et je pense que certains auditeurs vont se la poser, mais est-ce que l'euthanasie, c'est l'antinomie de soins palliatifs?
Alors, l'euthanasie, moi, je ne m'avancerai pas de façon aussi tranchée que vous venez de l'exprimer. Je pense que les soins palliatifs s'opposent fermement à la légalisation de l'euthanasie et ainsi qu'à la légalisation d'un suicide assisté, qui sont deux choses quand même différentes. L'observation qu'on fait depuis que ces pratiques sont légalisées dans certains pays, je pense à la Belgique en particulier, mais aussi plus récemment le Canada, on a pu observer des dérives majeures. Ce moment terminal de la vie, quand il est exécuté à la demande de quelqu'un par un tiers médecin, à qui il faudrait apprendre à tuer, alors qu'on lui a appris pendant toutes ses études à assister et à sauver quoi des vies. Il y a quelque chose de tellement paradoxal qui fait que, lors d'une dernière enquête qu'on avait fait au niveau de la Société française de soins palliatifs, on s'est aperçu que moins de 3% des médecins consentaient à imaginer ça. Vous voyez, donc on est en décalage. Alors, il se trouve qu'on a des lois en France qui sont assez extraordinaires, la loi Leonetti puis la loi Claeys-Leonetti, qui nous ont apporté absolument tous les outils nécessaires pour accompagner au mieux les patients dont on a la charge. Alors, vouloir plus au nom d'une ultime liberté qui en même temps ravit la liberté du soignant, puisque finalement il faut bien obliger quelqu'un à le faire. C'est quand même quelque chose qui nous paraît contre nature.
Docteur Alain Dernieau, alors je l'ai dit, vous avez été le créateur des soins palliatifs dans les Hautes-Alpes, c'était il y a 30 ans. Je vais vous poser une question, c'est est-ce qu'il y a eu une évolution depuis ces 30 dernières années? Vous faites partie de l'association Kairos et le nom est très important, très intéressant même. Le Kairos, c'est un terme psychanalyste presque. Ça symbolise la décision qui doit être prise ni trop tôt ni trop tard, mais à l'exact bon moment. Et cette question, justement, seulement 18% des Français déclarent avoir rédigé leur directive anticipée concernant les soins palliatifs. En l'espace de 30 ans, soins palliatifs, ce n'est pas un terme qu'on a encore bien anticipé, bien intégré.
Absolument, vous avez parfaitement raison. Je pense que le soin palliatif, c'est quelque chose qui a été d'emblée associé à la fin de vie, donc qui repousse un petit peu plus qu'il n'attire, hein, évidemment. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est développé encore de façon incomplète. Vous savez, quand même, il y a 26 départements en France qui ne disposent d'aucune unité de soins palliatifs. Hein. Vous voyez, par comparaison, on peut dire que nous, ici, on a un peu de chance, puisqu'on dispose d'une unité de soins palliatifs depuis 2008, d'une équipe mobile depuis 1995. Aujourd'hui, le constat au niveau national, c'est qu'un Français sur trois a accès aux soins palliatifs. Un sur trois. Donc, ça veut dire que deux Français sur trois, deux personnes sur trois, qui sont confrontés à des maladies graves, évolutives, douloureuses, etc., n'ont pas accès à des professionnels de soins palliatifs.
Et c'est là où entre en vigueur le cinquième plan national du gouvernement qui a été présenté par le ministre de la Santé, Olivier Véran, oui. Avec un objectif clair affiché. Plus un seul département ne doit être dépourvu de structures palliatives à l'horizon 2024. Concernant les Hautes-Alpes, et on revient justement sur cette fédération départementale de soins palliatifs qui... reverra le jour la semaine prochaine lors d'une assemblée générale constitutive. Aujourd'hui, quel bilan on fait, quel état des lieux on fait de l'offre de soins palliatifs dans les Hautes-Alpes et peut-être même, je vais élargir, aux Alpes d'Haute-Provence.
Ah ben alors, donc, cette offre existe, c'est déjà ça, hein, on va dire. Elle s'est développée en 30 ans, puisqu'on moment de 1995 à aujourd'hui, on a pu mettre en place une équipe mobile interhospitalière, puisque tout ce qu'on a fait, nous, on l'a fait sur le mode départemental. Hein. On n'a pas ciblé des villes, etc. On a d'emblée eu une réflexion départementale qui va de Briançon et aujourd'hui jusqu'à Sisteron, bien sûr. Donc, l'équipe mobile est là et elle intervient partout. On avait créé aussi un réseau pour le domicile, donc qui a été intégré dans l'équipe mobile, qui est devenue une équipe mobile territoriale de soins palliatifs, qui intervient aussi bien au domicile que en institution, en EHPAD et autres établissements de soins, les hôpitaux bien sûr. Et nous avons ouvert une USP, une unité d'hospitalisation en 2008 à l'hôpital de Gap.
Combien de personnes aujourd'hui dans les Hautes-Alpes sont suivies en soins palliatifs?
Alors, l'unité de soins palliatifs dispose de 10 lits, hein, donc il y a 10 lits d'hospitalisation. Il y a des lits d'hospitalisation, 10 lits identifiés de soins palliatifs à Embrun, à Briançon, à La Durance et au Rieuvert. Donc, l'offre de soins en nombre de lits, même s'ils n'ont pas tous gradué de la même manière, fait qu'il y en a quand même plus d'une vingtaine.
Et donc, cette offre de soins palliatifs, on peut dire qu'elle est suffisamment de proximité dans les Hautes-Alpes?
Alors, elle n'est pas assez développée, hein, précisément. Actuellement, il y a un manque d'informations et un manque de formation.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, entre l'information et la formation, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
C'est ce que la fédération se prépare à faire. C'est-à-dire faire savoir... ce savoir-faire, déjà, hein, en quelque sorte, et faire animer des soirées, animer des journées, animer des congrès sur le département, participer à tous les niveaux à la formation continue des professionnels de santé, mais aussi leur formation initiale dans les établissements, les instituts de formation en soins infirmiers, ce que l'on fait déjà, mais on le fait à minima parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Donc cette fédération, elle est née de l'ambition qu'on a partagée, donc avec cette association Jalmalve, de redynamiser un petit peu ce domaine de soins, le faire connaître auprès des populations, mais également auprès des professionnels de santé qui parfois ne connaissent pas tout, ne savent pas à quel moment on peut faire intervenir ces soins palliatifs. Comme je vous le disais, l'avantage, on le sait aujourd'hui, c'est de les faire intervenir très précocement. On a fait il y a des études qui sont parues il y a quelques années en arrière où on a prouvé que des soins palliatifs associés à des chimiothérapies faisaient gagner de l'espérance de vie. Simplement, vous voyez, c'est alors que ceux qui n'avaient que la chimiothérapie, eh ben, vivaient moins longtemps.
Merci
donc,
beaucoup.
Les soins palliatifs ont fait leur preuve.
On fait leur preuve. Merci beaucoup, docteur Alain Dernier, d'avoir été avec nous. Ce matin, je rappelle donc l'Assemblée Générale Constitutive de la Fédération Départementale de Soins Palliatifs des Hautes-Alpes. Ce sera jeudi 3 mars prochain, salle du Royal à Gap. Merci à vous.